Isère Classique, le magazine musical de RCF Isère, présenté cette semaine par Éric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Alain Meunier, bonjour.
Bonjour Éric Rouillet.
Bienvenue dans nos studios de RCF.
Merci de m'y accueillir.
Vous êtes un violoncelliste, ce que l'on peut nommer un maître, un maestro. Vous faites partie de notre patrimoine musical national. Comment on peut vous définir et comment je pourrais vous présenter, en fait, le plus fidèlement à ce que vous vous estimez être ?
Alors, j'estime être un violoncelliste. Depuis l'âge de 7 ans, où j'ai pour la première fois pris ce violoncelle entre les bras, les mains et les jambes. Et j'insiste, à bientôt peu de mois, 80 ans, donc je continue. Comment me définir autrement que comme un... Non, je me définirais comme un citoyen qui joue du violoncelle. Voilà, au fond.
C'est très émouvant. On va essayer dans cette émission d'aborder votre parcours à travers une sélection de disques, de votre discographie. Mais que représente pour vous la différence entre les concerts et les enregistrements ?
Alors, c'est sans doute fondamental. Et puis, in fine, c'est la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, il y a l'apport du public dans l'idée du concert. Il y a ce partage. Le public est un... C'est pas une masse de plus ou moins importante de personnes faites pour vous écouter. À mon avis, le public est un acteur évident de la scène. Ça se joue entre ceux qui jouent, le public et ce qui est joué, qui me paraît la chose la plus fondamentale. Mais au fond, c'est un peu la même chose avec l'enregistrement. Alors on peut dire, oui, mais c'est pas pareil. Il y avait un critique un jour qui n'était pas une sottise près, il n'existe plus, donc paix à son âme, et qui disait, oui, un enregistrement, il n'y a aucune raison d'avoir le track. C'est une imbécilité. Je vois pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de public qu'on ne peut pas avoir le track. On a le droit d'avoir le track devant l'œuvre, devant son immensité, devant ce qu'elle vous offre de vertigineux. Donc, il y a les ingrédients qui se partagent, que ce soit sur la scène du concert ou sur la scène de l'enregistrement. Effectivement, on peut recommencer. Mais aussi, le fait de recommencer, ça ne vous calme pas nécessairement. Ça peut vous aider à avoir encore un peu plus de track.
Est-ce que il vous est arrivé soudainement de ressentir avec le public une totale connivence, ou tout l'inverse, une sorte de rejet avec un public inattentif, et que cela puisse influencer votre façon de jouer ?
Mais c'est évident que ça influence, parce que c'est du domaine de la vibration. Vous avez des salles. Alors, est-ce qu'il faut juger ça par rapport à certains pays qui sont plus favorables que d'autres ? Je ne suis pas si sûr. Mais vous avez des salles où vous sentez une connivence très grande qui est faite d'une sorte de complicité qui peut être préalable. Ça existe aussi. Mais vous pouvez sentir au fur et à mesure que se déroule le concert l'idée du partage, l'idée que se joue quelque chose qui nous est commun. Et puis il arrive aussi qu'on trouve des salles dont on déclare ben, c'est une mauvaise salle. Non pas qu'à ses qualités acoustiques, mais parce que voilà, on a un public de gens qui écoutent. Mais il ne suffit pas d'écouter. Je crois que l'écoute est quelque chose qui peut être extraordinairement actif aussi. Écouter, c'est jouer. Et surtout, c'est être joué.
Mais est-ce qu'il y a une corrélation systématique entre une interprétation que vous faites et où vous dites « Aujourd'hui, j'ai touché quelque chose, une sorte de vérité, une sorte de vibration interne et public qui réagit de la même façon » ou c'est rare ?
Alors, je ne sais pas si c'est rare, mais je vous arrête tout de suite. Vous pouvez très, très, très facilement avoir des sensations qui sont des sensations d'intimité, de bonheur absolu, que le message est en train de passer, que vous êtes en train de dire ce que vous vouliez dire, que c'est là. Et puis, vous trouvez un public qui n'a pas du tout réagi de la même façon, ou le contraire, vous sortez de scène en vous disant « Ah là là, mais quelle horreur, etc. » Et vous trouvez des gens enthousiastes. On n'est pas non plus les maîtres. Ce que nous ressentons n'a pas de vérité objective. C'est assez mystérieux, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de vérité objective de ce que nous ressentons.
Je propose que nous écoutions un extrait du troisième trio de Brahms, l'Andante, que vous avez enregistré avec Gérard Poulet et Jacques Rouvier.
Deux beaux partenaires. Mmh.
Alain Meunier, Brahms, le grand répertoire, le répertoire allemand, c'est gras, c'est nourrissant.
Quelle belle musique. Alors, ces trios sont formidables, tous les trois.
Je vais enchaîner avec un autre style de musique, avec Charles Koechlin, si vous voulez bien.
Bien différent.
Qui a composé sa sonate pour violoncelle en 1917, violoncelle et piano, et qui ne sera créé qu'en 1924. Et en 1914, il était trop âgé pour être mobilisé, il s'était engagé comme infirmier de la Croix-Rouge, et jusqu'en 1916, il a traversé une crise majeure qui l'a forcé à rompre avec son existence passée, tant intellectuelle qu'artistique, et le décès de sa mère en 1917 l'a obligé pour la première fois de sa vie à vivre de sa musique. Évidemment, comme les compositeurs français de cette époque, il a cherché à se démarquer de ce désir vaniteux du sublime et du colossal qu'il attribuait, lui, aux productions germaniques. Cette sonate possède, grâce à Darius Milhaud, parce qu'il l'a beaucoup poussé à recomposer, elle possède la vérité ou l'illusion que l'on peut vaincre les atrocités de la guerre par l'art.
Alors, je crois que c'est une tentation qui a été celle d'un certain nombre de compositeurs, et pour citer un des plus connus de ce point de vue-là, on peut citer Shostakovich, qu'effectivement, il y a sans doute un effet de, je sais pas, de catharsis avec l'opération musicale, mais il faut imaginer que c'est vrai et que c'est possible. Autrement, il n'y a pas d'espoir au bout du compte.
Il faut y croire.
Il faut y croire, absolument.
Je propose que nous écoutions le final de cette sonate pour violoncer les pianos de Koechlin, qui est une œuvre absolument extraordinaire et que vous avez enregistrée au couvent des Jacobins de la maison Louis Jadot.
Absolument.
Avec Anne Lobozek. Nous écoutions un extrait du final de la sonate pour violoncelle et piano de Charles Koechlin. On me dit souvent que c'est une musique qui a une sonorité nocturne. Pas du tout. Il y a de l'ombre. C'est ombragé. Mais ce n'est pas nocturne.
Non, je ne crois pas. Il y a du mystère quand même. Ça ne se dévoile pas à première vue. Il faut aller la chercher, mais c'est la moindre des politesses par rapport à ce que nous proposent les compositeurs que de ne pas considérer que c'est déjà fait avant même qu'on ait commencé le travail. Mais c'est une musique magnifique et on travaille beaucoup avec Anne, on a fait beaucoup de musique ensemble, mais à chaque fois que je l'écoute, je reste émerveillé par sa palette sonore.
J'ai l'habitude de dire que le mystère des saveurs de la musique de Charles Koechlin n'est pas dans l'assiette, mais sous la nappe.
Oui.
Je voudrais qu'on vous écoute dans un enregistrement que j'ai découvert il y a peu de temps, qui m'a fasciné.
Ah.
Je ne le connaissais pas du tout. Et après, je suis tombé en extase parce que le compositeur n'est pas forcément lié à de la musique intelligente ou grave. Et j'avoue que j'ai été saisi par cette rencontre. Et je vous propose que nous écoutions un extrait de ce disque. Quelle délicieuse musique.
Hey, Offenbach, merveilleux compositeur. Alors, il a écrit toute une série de pièces pour deux violoncelles et qui se suivent ainsi lettre A, lettre B, lettre C, lettre D, lettre E et lettre F. Je crois que cette pièce fait partie de la série de la lettre D. Ça commence déjà à être, là on ne l'entend pas, mais ça commence déjà à être assez difficile. Lettre E, ça l'est très nettement. Et lettre F, c'est beaucoup trop difficile pour être joué par des gens comme moi. Donc, il faut travailler, ça devient agaçant.
Un duo pour deux violoncelles.
Deux violoncelles, et c'était avec Philippe Muller, donc il y avait Muller et Meunier, donc voilà.
Je vais me permettre d'être irrévérencieux,
allez-y,
si
allez-y.
Vous le permettez. On me chuchote souvent, avec malice et avec fourberie, qu'Alain Meunier ne possède plus une sonorité suffisante pour s'extraire de la musique française, et de pianiste accompagnateur dévoué à un style de jeu très précis et souvent minimaliste. Or, j'ai entre les mains un enregistrement de 2016 de trio de Mozart, dans lequel vous participez avec la violoniste américaine Hilary Ahn, probablement la violoniste la plus renommée de notre époque, et le pianiste américain Robert Levine, que nous connaissons bien sur ACF et que nous considérons comme l'une des immensités de toute une génération de pianistes, avec des fragments de trio de Mozart que Robert Levine a achevé de composer pour un premier enregistrement mondial, et on pourrait même considérer que les parties de violoncelle ont été écrites pour vous. Alain Meunier, être entouré de Hilary Ahn et de Robert Levine, est-il vraiment un signe d'extinction ?
Alors, je ne sais pas d'où vous vient ce commentaire. Mon Dieu, il est loisible à chacun de...
Comme je vous dis, de personnes malicieuses et fourbes.
Oui, mais il est loisible à chacun de commenter comme il l'entend. Ce n'est pas mon problème, ça devient le leur. C'était du pur bonheur que d'être avec Hilary et Robert, de faire cette musique. Au demeurant, la partie de violoncelle dans ces trios de Mozart et ses extraits pouvait donner de l'eau au moulin de votre interlocuteur dans la mesure où les parties sont modestes. Alors, j'ai sûrement moins de sons qu'à une époque. Est-ce que c'est la quantité du son qui fait le larron ? C'est pas sûr. On disait qu'on n'entendait pas Starker au troisième rang, c'était un des plus grands violoncellistes du siècle passé. Voilà, donc tout ça n'a que peu d'importance. Quand on joue avec une pianiste et qu'on fait de la sonate, on ne joue pas avec un accompagnateur. Ces musiques sont des musiques avec des parties à part entière pour chacun des instrumentistes. Donc ces commentaires sont nuls et non avenus du point de vue musical et musicologique.
Je me permettais quand même de vous interroger, parce que la réponse, qui aujourd'hui, comme violoncelliste, peut se permettre de jouer avec Hilary Ahn et Robert Levine ? Il n'y a pas grand monde.
Oh, si, parce qu'il y a plein de bons violoncellistes, il y a plein d'excellents violoncellistes. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du lot. Robert m'aime bien, on se connaît bien, Hilary a appris à me connaître, on s'est bien aimé, je crois que voilà.
Eh bien écoutez, nous allons écouter Robert.
Cher Alain, grand artiste comme tu es, je te salue des États-Unis avec toute mon admiration et toute mon affection.
Voilà, nous allons écouter...
Cadeau.
L'Allegro du trio que Schell 422, vous avez enregistré avec Robert et Hilary.
Thank you.
Trio 422 de Mozart, l'Allegro, Hilarion au violon, Robert Levin au piano et Alain Meunier au violoncelle. Une petite anecdote, pendant l'enregistrement, je m'étais permis d'aller voir Alain Meunier et de façon très, très amicale, et avec beaucoup d'humour, je lui avais demandé ce qu'il faisait là, et il m'avait dit « Ouh, je vais essayer de déranger le moins possible ». Vous vous souvenez, hein?
Ben oui, je crois que faire la basse de ce genre de trio, c'est être présent, mais pas envahissant.
Je voudrais revenir sur Robert, justement. Est-ce que vous connaissez le lien entre Robert Levin et Charles Koechlin? Puisque nous écoutions tout à l'heure Charles Koechlin.
Alors, peut-être faut-il y voir Nadia Boulanger?
Bravo. À l'École normale supérieure de Paris, Nadia Boulanger demandait à Charles Koechlin d'assumer la chaire de composition quand elle devait s'absenter. En 1979, Nadia Boulanger, quand elle a senti ses forces la quitter, puisque c'est l'année où elle est morte, elle a appelé Robert Levin au Conservatoire américain de Fontainebleau afin qu'il prenne en charge son enseignement. Il a d'ailleurs été un de ses élèves préférés avec Aaron Copland. Et ses vœux étaient clairement établis que Robert Levin lui succéda. Évidemment, le conseil d'administration s'est empressé de trahir les mémoires de Nadia Boulanger.
Alors c'est amusant que vous parliez de Charles Koechlin et de Nadia Boulanger, car j'ai habité pendant 20 ans rue des Boulangers à Paris, devant une maison habitée par Charles Koechlin pendant des années.
Et aujourd'hui, quelle rue vous habitez ?
Maintenant, j'habite rue Poulet.
Quel hommage à Gérard !
C'est pas impossible.
Yo-Yo Ma déclare, et je le cite, « J'ai une responsabilité. D'abord, de savoir de quoi se compose la narration d'une œuvre et de faire en sorte de raconter une histoire que les auditeurs puissent recevoir. Et si quelque chose nuit à cette narration, de pouvoir régler le problème. » L'objectif principal quand je joue, c'est d'être toujours mémorable. Si le lendemain des personnes de l'assistance se demandent qu'avons-nous fait hier soir, alors il s'agit pour moi d'un échec. Moi, personnellement, je dois avouer que le dernier concert du Yoma auquel j'ai assisté n'est donc pas un échec, puisque je m'en souviens des années après, et qu'effectivement, il a été mémorable, comme c'est l'ambition de Yoma. Il jouait le quintet pour deux violoncelles de Schubert, composé 2 mois avant la mort du compositeur, une œuvre dense, tendue avec une gravité presque métaphysique. Pendant le concert, il n'a cessé de faire des clins d'œil au public, des sourires à certains, de se chatouiller le ventre et de gesticuler quand il en avait le temps. J'ai cru Alain Meunier vous apercevoir dans l'assistance. C'est votre présence qui l'a tant amusé ?
Alors, je ne pense pas que ça soit en présence. J'ai le souvenir, effectivement, de vous avoir rencontré ce concert et je peux attester du fait que Yo-Yo Ma a rempli son office puisque nous nous souvenons tous les deux du concert.
Vous êtes toujours si élégant. Vous avez enregistré il y a peu de temps, je crois, un disque extraordinaire de musique française avec la deuxième sonate de Guy Ropartz et la sonate d'Albéric Magnard.
Magnifique sonate, la sonate de Ropartz, magnifique compositeur.
Avec Anne Lobozek ?
Avec Anne Lobozek, formidable pianiste.
Ouais, et donc, ce choix est lié à des affinités par rapport au compositeur. On reste dans la musique française, la magnifique musique française.
Oui, alors c'est aussi un des effets de ces commémorations de 14-18, car à l'occasion de ces commémorations, on a replongé un peu dans tout le répertoire de ces années, chose qui avait été oubliée depuis fort longtemps, puisqu'au fond de ce temps ne restait que Debussy, Ravel, Fauré, Saint-Saëns un peu avant, etc. Donc, et tous ces compositeurs de formidables mérites, sont de grands compositeurs, étaient passés à la trappe. Et eux et bien d'autres ont ressurgi à l'occasion de ces commémorations. Et je dois dire, la découverte et le travail, d'ailleurs que j'avais commencé bien avant les commémorations, le travail de la sonate de Magnard, et c'est un gros travail, c'est une sonate complexe, difficile, mais ça mérite. Et puis Ropartz aussi, qui est un superbe compositeur. Alors lui, encore plus passé à la trappe, parce qu'il n'a pas eu droit à cette espèce d'hommage implicite au nom d'un nationalisme qui a été un peu détourné de sa vraie nature par l'histoire, par les circonstances, par la contingence, etc. Donc on a beaucoup parlé de Magnard à une époque. Et on n'a pas beaucoup parlé de Ropartz, qui était un de ses amis fidèles. Ils se sont écrits toute leur vie, la correspondance d'ailleurs, qui était parfois même salace, tout à fait... extraordinaire, elle est crue et elle se préoccupe beaucoup de leurs œuvres de l'un et de l'autre, ils se jugent mutuellement. Ropartz, c'était un directeur de conservatoire formidable à Nancy, il ne voulait pas être parisien, ça ne l'intéressait pas. Il aimait la province, il y a passé sa vie, ça lui a sans doute coûté une partie de notoriété manquante, très certainement.
Nous arrivons au terme de notre émission.
Dommage. On est bien avec vous.
Mais nous allons nous quitter avec le grand répertoire, avec Beethoven.
Pas mal.
Puisque vous avez enregistré l'intégrale des sonates pour violoncelle et piano avec Anne Lebozec.
Et en live.
En live, en public.
Concert en public.
Et je voulais que nous nous quittions avec la fugue de la sonate opus 102 numéro 2. Et nous nous retrouverons à la sortie de votre disque de la deuxième sonate de Guy Ropartz et d'Albéric Magnat. Merci Alain Meunier.
Bientôt. Merci à vous Éric Rouillet. Merci.